Bonnes Feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Boussole, de Mathias Sénard.
Salammbô, de Gustave Flaubert. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Eryx. Et comme le maître était absent et qu'il se trouvait nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté. Les capitaines, portant des cothurnes de bronze, s'étaient placés dans le chemin du milieu, sous un voile de pourpre à franges d'or qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais. Le commun des soldats était répandu sous les arbres, où l'on distinguait quantité de bâtiments à toit plat, pressoirs, celliers, magasins, boulangeries et arsenaux, avec une cour pour les éléphants, des fosses pour les bêtes féroces, une prison pour les esclaves.
Mathias Sénard, c'est la dernière émission de ces Bonnes Feuilles d'été, la dernière occasion de poser cette question toute simple. Pourquoi le choix de Salammbô, de Gustave Flaubert ?
Pour moi, ce texte est vraiment, un moment tournant de la littérature, en tout cas dans mon goût. C'est vraiment l'ouverture à la fois à cet Orient antique, barbare. C'est le plaisir justement de la chair et de la chair des mots. Voilà. Ce mélange justement très flaubertien entre le plaisir et la douleur, la beauté, la laideur, que tout cela trouve sa place en littérature. Et je crois que c'est ce qui rend Salammbô absolument fascinant, c'est justement cette alternance de moments terrifiants de barbarie, de violence, et en même temps d'une immense beauté. Et voilà, le décor est planté, même des éléphants, les fosses, les bêtes féroces, voilà. La bataille d'Eryx, évidemment, mentionnée, Amilcar, Carthage, l'or, des franges, les écuries, les soldats, et puis une prison pour les esclaves. Donc tout ça, voilà, ce mélange que moi je trouve tout à fait fascinant de comment est-ce que en quelques lignes, avec des mots extraordinairement précis, Flaubert fabrique déjà une ambiance visuelle, mais aussi sonore. Et rien que la première phrase, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Trois périodes, trois noms propres, comme ça, qui marquent, cette valse mortel que va être Salammbô.
Et vos propres romans, Mathias Sénard, est-ce qu'ils sont déclenchés par la première phrase ?
Pas toujours, mais ça peut arriver. Je me souviens que mon premier roman, par exemple, La perfection du tir, est vraiment né de cette phrase « Le plus important, c'est le souffle ». C'était une injonction que je me faisais à moi-même, quelque chose que je me disais à moi, auteur, qui commençait ce premier roman. Le plus important, c'est le souffle. Voilà. C'était ça qu'il fallait trouver et que j'espérais conserver pour arriver jusqu'au bout du texte.
Vous nous lisez les premières pages de Boussole, votre nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Actes Sud.
Nous sommes deux fumeurs d'opium, chacun dans son nuage. Sans rien voir au dehors, seuls, sans nous comprendre jamais, nous fumons. Visages agonisants dans un miroir. Nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement. Un cristal de neige glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements. Je suis cette goutte d'eau condensée sur la vitre de mon salon. Une perle liquide qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l'a engendrée. Ni des atomes qui la composent encore, mais qui, bientôt, serviront à d'autres molécules, à d'autres corps, aux nuages pesant lourd sur Vienne ce soir. Qui sait dans quelle nuque ruissellera cette eau, contre quelle peau, sur quel trottoir, vers quelle rivière. Et cette face indistincte sur le verre n'est mienne qu'un instant, une des millions de configurations possibles de l'illusion. Tiens, Monsieur Grubert promène son chien malgré la bruine. Il porte un chapeau vert et son éternel imperméable. Il se protège des éclaboussures des voitures en faisant de petits bonds ridicules sur le trottoir. Le clébard croit qu'il veut jouer, alors il bondit vers son maître et se prend une bonne baffe au moment où il pose sa patte crasseuse sur l'impair de Monsieur Grubert, qui finit malgré tout par se rapprocher de la chaussée pour traverser. Sa silhouette est allongée par les réverbères, flaque noircie au milieu des mers d'ombre des grands arbres, déchirée par les phares sur la Porzellangasse. Et Herr Gruber hésite apparemment à s'enfoncer dans la nuit de l'Azergrund, comme moi, à laisser ma contemplation des gouttes d'eau, du thermomètre et du rythme des tramways qui descendent vers Schottentor. L'existence est un reflet douloureux, un rêve d'opiomane, un poème de Rumi chanté par Shahram Nazeri. L'ostinato du zarb fait légèrement vibrer la vitre sous mes doigts comme la peau de la percussion. Je devrais poursuivre ma lecture au lieu de regarder M. Gruber disparaître sous la pluie, au lieu de tendre l'oreille au mélisme tournoyant du chanteur iranien, dont la puissance et le timbre pourraient faire rougir de honte bien des ténors de chez nous. Je devrais arrêter le disque, impossible de me concentrer. J'ai beau relire ce tiré à part pour la 10e fois, je n'en comprends pas le sens mystérieux. 20 pages horribles, glaçantes, qui me parviennent précisément aujourd'hui. Aujourd'hui qu'un médecin compatissant a peut-être nommé ma maladie, a déclaré mon corps officiellement malade, presque soulagé d'avoir posé, baiser mortel, un diagnostic sur mes symptômes. Un diagnostic qu'il convient de confirmer tout en commençant un traitement, disait-il, et en suivre l'évolution. L'évolution, voilà, on en est là. Contempler une goutte d'eau évoluer vers la disparition avant de se reformer dans le grand tout. Il n'y a pas de hasard. Tout est lié, dirait Sarah. Pourquoi reçois-je précisément aujourd'hui cet article par la poste? Un tiré à part d'autrefois, de papier et d'agrafe. Au lieu d'un PDF assorti d'un message souhaitant bonne réception. Un mail qui aurait pu transmettre quelques nouvelles, expliquer où elle se trouve, ce qu'est ce Sarawak, d'où elle écrit et qui, d'après mon atlas, est un état de Malaisie situé dans le nord-ouest de l'île de Bornéo, à 2 pas de Brunei et de son riche sultan. À 2 pas aussi des gamelans de Debussy et de Britten, me semble-t-il. Mais la teneur de l'article est bien différente. Pas de musique, à part peut-être un long chant funèbre. 20 feuillets denses, parus dans le numéro de septembre de Représentation, belle revue de l'Université de Californie dans laquelle elle a déjà souvent écrit. L'article porte une brève dédicace sur la page de garde, sans commentaire. « Pour toi, très cher Franz, je t'embrasse fort, Sarah, et a été posté le 17 novembre, c'est-à-dire il y a 2 semaines. » Il faut encore 2 semaines à un courrier pour faire le trajet Malaisie-Autriche. Peut-être a-t-elle radiné sur les timbres. Elle aurait pu ajouter une carte postale. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai parcouru toutes les traces d'elle que j'ai dans mon appartement. Ses articles, 2 livres, quelques photographies, et même une version de sa thèse de doctorat, imprimée et reliée en skivertex rouge. 2 forts volumes de 3 kilos chacun. Dans la vie, il y a des blessures qui, comme une lèpre, rongent l'âme dans la solitude, écrit l'Iranien Sader Hedayat au début de son roman La chouette aveugle. Ce petit homme à lunettes rondes le savait mieux que quiconque. C'est une de ces blessures qui l'amena à ouvrir le gaz en grand dans son appartement de la rue Championnet à Paris, un soir justement de grande solitude, un soir d'avril, très loin de l'Iran, très loin, avec pour seule compagnie quelques poèmes de Khayyam et une sombre bouteille de cognac, peut-être, ou un galet d'opium, ou peut-être rien, rien du tout. à part les textes qu'il gardait encore par-devers lui et qu'il a emportés dans le grand vide du gaz. On ignore s'il laissa une lettre ou un signe autre que son roman « La chouette aveugle », depuis longtemps achevé, et qui lui vaudra, 2 ans après sa mort, l'admiration d'intellectuels français qui n'avaient jamais rien lu de l'Iran. L'éditeur José Corti publiera « La chouette aveugle » peu après « Le rivage des Sirtes ». Julien Gracq connaîtra le succès quand « Le gaz de la rue Championnet » venait de faire son effet, l'an 1951, et dira que « Le rivage » est le roman de toutes les pourritures nobles, comme celle qui venait d'achever de ronger Hedayat dans les terres du vin et du gaz. André Breton prendra parti pour les deux hommes et leurs livres, trop tard pour sauver Hedayat de ses blessures, s'il avait pu être sauvé, si le mal n'était pas, très certainement, incurable. Le petit homme à épaisses lunettes rondes était dans l'exil comme en Iran, calme et discret, parle en bas. Son ironie et sa méchante tristesse lui valurent la censure, à moins que ce ne fût sa sympathie pour les fous et les ivrognes, peut-être même son admiration pour certains livres et certains poètes. Peut-être le censura-t-on parce qu'il tâtait un peu de l'opium et de la cocaïne tout en se moquant des drogués, parce qu'il buvait seul ou avait la tare de ne plus rien attendre de Dieu, pas même certains soirs de grande solitude quand le gaz appelle. Peut-être parce qu'il était misérable ou parce qu'il croyait raisonnablement à l'importance de ses écrits ou qu'il n'y croyait pas, toute chose qui dérange. Toujours est-il que rue Championnet, aucune plaque ne signale son passage ni son départ. En Iran, aucun monument ne le rappelle malgré le poids de l'histoire qui le rend incontournable et le poids de sa mort qui pèse encore sur ses compatriotes. Son œuvre vit aujourd'hui à Téhéran comme lui mourut, dans la misère et la clandestinité, sur les étals des marchés aux puces, ou dans des rééditions tronquées, élaguées de toute allusion pouvant précipiter le lecteur dans la drogue ou le suicide, pour la préservation de la jeunesse iranienne, atteinte de ces maladies de désespoir, le suicide et la drogue, et qui se jette donc sur les livres de Hedayat avec délectation quand elle y parvient, et ainsi célébrée et mal lue, il rejoint les grands noms qui l'entourent au Père-Lachaise, à 2 pas de Proust, aussi sobre dans l'éternité qu'il le fut dans la vie, aussi discret, sans fleurs tapageuses et recevant peu de visites, depuis ce jour d'avril 1951 où il choisit le gaz et la rue Championnet pour mettre un terme à toute chose, rongée par une lèpre de l'âme impérieuse et inguérissable. Personne ne prend la décision de se suicider. Le suicide est en certains hommes, il est dans leur nature. Hedayat écrit ces lignes à la fin des années 1920. Il les écrit avant de lire et de traduire Kafka, avant de présenter Khayyam. Son œuvre s'ouvre par la fin. Le premier recueil qu'il publie débute par Enterré vivant, Zende Begur, le suicide et la destruction, et décrit clairement les pensées, pensons-nous, de l'homme au moment où il s'abandonne au gaz 20 ans plus tard, se laissant somnoler doucement après avoir pris soin de détruire ses papiers et ses notes, dans la minuscule cuisine envahie par l'insupportable parfum du printemps qui arrive. Il a détruit ses manuscrits, peut-être plus courageux que Kafka, peut-être parce qu'il n'a aucun Max Brod sous la main, peut-être parce qu'il n'a confiance en personne ou qu'il est convaincu qu'il est l'heure de disparaître. Et si Kafka s'en va en toussant, corrigeant jusqu'à la dernière minute des textes qu'il voudra brûler, Hedayat part dans la lente agonie du sommeil lourd, sa mort déjà écrite 20 ans plus tôt, sa vie toute marquée par les plaies et les blessures de cette lèpre qui le rongeait dans la solitude et dont nous devinons qu'elle est liée à l'Iran, à l'Orient, à l'Europe et à l'Occident. Comme Kafka était dans Prague à la fois allemand, juif et tchèque, sans être rien de tout cela, perdu plus que tous, ou libre plus que tous. Hedayat avait une de ces plaies du soi qui vous font tanguer dans le monde. C'est cette faille qui s'est ouverte jusqu'à devenir crevasse. Il y a là, comme dans l'opium, dans l'alcool, dans tout ce qui vous ouvre en deux, non pas une maladie, mais une décision. Une volonté de se fissurer l'être jusqu'au bout. Si nous entrons dans ce travail par Hedayat et sa chouette aveugle, c'est que nous nous proposons d'explorer cette fêlure, d'aller voir dans la lézarde, de nous introduire dans l'ivresse de celles et ceux qui ont trop vacillé dans l'altérité. Nous allons prendre la main du petit homme pour descendre observer les blessures qui rongent, les drogues, les ailleurs, et explorer cet entre-deux, ce Barzac, le monde entre les mondes où tombent les artistes et les voyageurs. Ce prologue est décidément bien surprenant. Ses premières lignes sont toujours 15 ans après, aussi déroutantes. Il doit être tard. Mes yeux se ferment sur le vieux tapuscrit malgré le zarbe et la voix de Nazeri. Sarah avait été furieuse au moment de la soutenance de sa thèse qu'on lui reproche le ton romantique de son préambule et ce parallèle absolument hors sujet avec Grac et Kafka. Pourtant, Morgan, son directeur de recherche, avait essayé de la défendre, d'une façon d'ailleurs assez naïve, en disant qu'il était toujours bon de parler de Kafka, ce qui avait fait soupirer ce jury d'orientalistes vexés et de mandarins assoupis qui ne pouvaient être tirés de leur sommeil doctrinal que par la haine qu'ils éprouvaient les uns envers les autres. Ce que je viens de lire, cet extrait du préambule de la thèse de Sarah, qui au départ n'était pas, et ça c'était il y a longtemps, je parle d'il y a bientôt 10 ans, au départ n'était pas destiné à être inclus dans un roman, mais bien le début d'un texte que je me proposais d'écrire moi-même. Et qui était un peu le début de ma réflexion liée aussi à mon expérience personnelle. Voilà, je suis un peu un orientaliste moi-même, si on peut encore utiliser ce terme-là, mais c'est vrai que j'ai étudié l'arabe et le persan. Et oui, il y a une dizaine ou douzaine d'années déjà, j'avais envie d'explorer, disons, le territoire un peu scientifique qui s'ouvre justement entre l'Orient et l'Occident, l'espace de ces créateurs justement qui se sont intéressés à l'autre, qui se sont déplacés, qui ont voyagé et qui parfois se sont perdus et même perdus souvent dramatiquement comme Hedayat qui s'est suicidé à Paris rue Championnet ou d'autres occidentaux qui se sont perdus dans la drogue, dans les plaisirs, le désir, une illusion un peu orientale. Et je pense que c'est comme ça que le livre a commencé. Et c'est vrai que les questions qui vous obsèdent sont un moteur pour justement aller chercher des réponses qui s'accumulent, puisque les réponses à nos obsessions ne sont pas forcément uniques, ou les moyens de les soigner ne sont pas forcément uniques. C'est une forme d'énergie, un peu, l'obsession. Et donc, toute cette énergie accumule des matériaux et des matériaux, enfin dans mon cas en tout cas, des personnages, des récits, des voyages, qui finissent par former une petite bibliothèque dans laquelle on va tailler, un peu comme Gaston à la gaffe, fabriquer des couloirs dans la documentation de chez Spirou, et il faisait des galeries au milieu des livres, des tunnels improbables qu'il arpentait avec un casque à lampe. Voilà, ça c'est un peu la façon dont ce livre s'est écrit, un peu avec une frontale dans l'immense galerie des livres. Alors bien sûr, il y avait un casque, voilà, le casque était double. Le casque était effectivement un casque de mineur et aussi un casque pour écouter toutes ces musiques, puisque un des aspects de l'orientalisme dont parle le livre, qu'essaye un peu de retracer le livre, c'est l'immense influence qu'ont eu les musiques arabes, persanes et turques, sans parler bien sûr des musiques d'Extrême-Orient aussi plus tard, ces gamelans de Debussy que je cite au début du livre par exemple, qui sont une formation typique de l'Indonésie, qui va influencer beaucoup Debussy, Benjamin Britten, beaucoup de gens. Il y a des leaders orientaux, par exemple, de Schubert, de Schumann, ce qui est assez surprenant. Hein. Comme ça, on n'imagine pas à quel point cet imaginaire et ces littératures ont imprégné l'histoire de la musique. Ouais,
was all sunny.
Alors c'est un extrait de Shahram Nazeri, qui est un très grand chanteur iranien, et une voix unique, et qui explore d'une façon très traditionnelle la musique qu'on pourrait appeler mystique, et qui donne l'impression, avec ses rythmes très circulaires, d'être fait pour danser et pour tourner jusqu'à l'ivresse et l'évanouissement.
C'était Mathias Sénard qui présentait son roman Boussole, qui paraît aux éditions Actes Sud. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somani Ina, Jean-Louis Deloncle.
و سوز مبرسو حوال پیلتن.